l'Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année et bienvenue dans cette émission thématique, la seconde de ces émissions qui marquent traditionnellement la fin et le début de l'année, qui me donne l'occasion de vous dire que la prochaine émission, nous reprendrons le cours ordinaire de nos émissions la semaine prochaine, cette prochaine émission sera en direct et en public à la Maison de la Radio et vous pourrez vous y inscrire en tapant www, puis Maison de la Radio sans séparation, puis .fr. Mais pour cette seconde émission thématique qui sera consacrée à Abraham Lincoln, nous recevons Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, bonjour.
Bonjour.
Pour vous interroger, Bertrand Tavernier, Jean-Louis Bourlange, essayiste, François Bugeon de l'Étang, ambassadeur de France, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Bertrand Tavernier, vous êtes un cinéaste actif, et même hyperactif, depuis les années 60. Avant d'être aujourd'hui l'auteur d'un voyage à travers le cinéma français, vous avez été réalisateur de courts-métrages, attaché de presse, assistant, notamment pour Jean-Pierre Melville. Vous avez animé une bande de cinéphages dans un club dénommé le Nickelodeon. Vous avez réalisé votre premier long-métrage, L'Horloger de Saint-Paul, en 1974, et reçu pour ce film le prix Louis de Luc. Vous êtes le cofondateur de l'Institut Lumière, centre culturel basé à Lyon, dédié à la conservation et à la diffusion du patrimoine cinématographique. Vous êtes écrivain, vous êtes directeur aux éditions Actes Sud d'une collection consacrée aux romans western. Vous avez tourné aux États-Unis, notamment dans La Brume électrique, avec une distribution entièrement américaine. Et vous avez consacré plusieurs ouvrages au cinéma américain en collaboration avec l'historien Jean-Pierre Coursaudon. Avec vous, à quelques jours de l'entrée en fonction du 45e président des États-Unis, nous allons nous intéresser à son lointain, à son très lointain prédécesseur, Abraham Lincoln, 16e locataire de la Maison-Blanche. Éric Nuevo, dans un article dont nous donnerons la référence sur notre site, observe, je cite, que 65 acteurs ont interprété le rôle de Lincoln. 45 ne l'ont fait qu'une seule fois, contre 13 à de multiples reprises. Parmi les plus marquants, on peut citer Frank McGlynn Sr. qui endossa le célèbre haut de forme 12 fois, depuis The Life of Abraham Lincoln, jusqu'à March on America en 1942, donc entre 1915 et 1942. Le héros de tous ces films, c'est l'homme du 13e amendement, l'artisan de l'abolition de l'esclavage, le chef d'une guerre civile longue, meurtrière et traumatisante, mais aussi le fils de fermier illettré, l'avocat autodidacte, le lecteur boulimique et encore la personnalité originale d'un homme habile, déterminé, doué d'un vif sens de l'humour, capable de rouerie, mais aussi enclin à de pesantes périodes de doute et de perte de confiance. Dernier en date, le film de Steven Spielberg, Lincoln, sorti en salle en 2012, saisit Lincoln, interprété par Daniel Day-Lewis, dans la dernière partie de la guerre. Il ne s'attache presque entièrement qu'au combat pour l'abolition de l'esclavage et traite autant, sinon davantage, des manœuvres parlementaires que des décisions militaires. Le film s'ouvre sur la plus célèbre phrase du discours prononcé à Gettysburg en 1863. « À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. » Près de trois quarts de siècle plus tôt, le film de John Ford, Young Mr. Lincoln, vers sa destinée, mettait en scène le futur président dans le dénuement de ses origines, puis dans sa lente prise de conscience de ses talents et de l'usage qu'il pourrait en faire. Avocat sans grande clientèle à New Salem, le jeune Abby Lincoln, interprété par Henry Fonda, y plaide et gagne un procès criminel avec l'humour, le sens de l'observation et cette forme de nonchalance qui a marqué la plupart des contemporains d'Abraham Lincoln. Bertrand Tavernier, d'après vous, que nous apprennent les représentations de la figure de Lincoln au cinéma sur les rapports qu'entretiennent les Américains avec leur histoire? Comment interpréter les grandes différences entre ces représentations filmées du personnage? Peut-on dresser des parallèles pertinents avec des figures historiques françaises au cinéma? Et cette évolution de la figure de Lincoln est-elle à l'image des mutations du cinéma américain dans son ensemble? Telles sont, selon la tradition, les questions qui terminent une présentation des missions thématiques et auxquelles, selon l'usage, je dois vous préciser que vous n'êtes nullement tenu de répondre, que vous pouvez choisir celle qui vous convient ou en choisir tout autre, sauf à répondre, s'il vous plaît, à cette dernière question. Quel est, au cinéma, votre Lincoln préféré ?
Il y en a trois. Il y a Fonda dans le film de Ford, Raymond Basset dans le film de John Cromwell, qui est vraiment un film très très intéressant, Abe Lincoln's in Illinois, écrit par le dramaturge Robert Sherwood, et très bien écrit. C'est un film assez académique, mais qui parle de tout ce qui, un peu comme le film de Ford, de tout ce qui précède, de Lincoln avant qu'il accède au pouvoir, c'est même ses doutes, et le film, je pense, trace un portrait assez juste en montrant que sa femme est très responsable, même de son ambition. C'est elle qui dynamise son ambition, qui combat ses doutes, qui veut qu'il arrive. Et bon, et puis le film quand même de Spielberg. Et j'avais trouvé, moi, très très intéressant qu'un cinéaste qui était d'habitude concerné surtout par le spectaculaire, par les effets spéciaux, passe beaucoup de temps à ne parler que de l'élaboration d'un article de loi, d'une loi. Et décrivent quelque chose qui est difficile à filmer, qui sont des discussions, des empoignades verbales, une tactique pour faire voter telle personne, quitte à lui promettre certaines choses, etc. Et j'avais trouvé très injuste qu'on dise ce film est uniquement un film de dialogue verbeux, etc. C'est évidemment un film, c'est comme si de dire qu'un film de procès est un film où le dialogue est important. Ça me paraissait ne pas du tout décrire ce qui était essentiel et ce qui était relativement courageux pour quelqu'un comme Spielberg de mettre de côté, à quelques plans près, le spectaculaire pour n'essayer de s'intéresser qu'à ce qu'a souvent évité le cinéma américain. Même dans sa représentation de Lincoln, ils ont eu peur. Il y a très peu de films de Lincoln qui parle de ses orientations politiques, voire de ses changements. Très peu. On reste un peu à la surface de l'image, ou alors on fait comme Ford, on décrit longtemps avant ce qui va peut-être devenir, mais aucun film, jamais...
C'est l'anti-Griffith.
C'est l'anti-Griffith. Mais déjà, alors il y a deux choses. Lincoln a été présent comme silhouette dans des dizaines et des dizaines de films, comme silhouette ou personnage secondaire, et ça commence avec Griffith. L'assassin John Wilbur était joué par le metteur en scène Raoul Walsh, là qui était là-dessus. Et Ford disait qu'il avait participé à ce film et nous avait dit quand on l'avait reçu qu'il faisait partie du Ku Klux Klan, que c'était très très dur de chevaucher avec une cagoule. Et c'est peut-être là où Tarantino a pris cette idée admirable dans Django, où les gens du Ku Klux Klan ne voient rien dans leur cagoule. Et je trouve qu'est une idée de génie. De génie,
parce que... C'est formidable.
Oui, voilà. Bon, alors, Lincoln, mais il faut remarquer que... Mais je crois que c'est vrai pour beaucoup de grandes périodes historiques, les cinéastes... hésite à se confronter avec ce qui est le cœur des débats. Et principalement, tout ce qui touche autour de la guerre de sécession. Il y a relativement peu de films très justes sur la guerre de sécession. Je veux dire, il y a des films sur les conséquences de la guerre de sécession, mais il y a des biographies très fantaisistes, comme celle de Custer, mais il y a très peu de films qui parlent des enjeux. Je crois qu'il faut attendre le documentaire de Ken Burns qui est admirable, The Civil War, la guerre de sécession, pour voir, pour pénétrer dans toutes les péripéties politiques, sociales, économiques de cette guerre.
François Buchon de l'Étang.
Je crois que ce que vient de dire Bertrand Tavernier est très important parce que c'est très compliqué la guerre de sécession et même les causes qui mènent à la guerre de sécession sont très importantes parce qu'on a toujours tendance, c'est ce qu'on nous a appris au fond à l'école, puis c'est ce qui nous touche, à placer l'esclavage et l'abolition de l'esclavage au cœur de la guerre de sécession. Mais il y avait d'autres enjeux politiques qui ont mené à la sécession et on oublie que l'émancipation elle-même n'est intervenue qu'après déjà 2 ans de guerre et des centaines de milliers de pertes. Le film de Ken Burns, vous avez raison, et j'ai vécu aux États-Unis juste après sa sortie, il avait profondément impressionné les foules. Et il a eu un succès considérable parce qu'il a éclairé les Américains sur les tenants et les aboutissants d'une guerre qui est au cœur de l'inconscient collectif, qui les marque profondément, mais dont ils ne comprenaient pas toujours la raison d'être ou les ramifications. On oublie d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une chose qui continue à dominer dans l'âme américaine. Il y a eu plus de morts, 600 000 morts militaires. 600 000 morts militaires pendant la guerre de sécession que pendant la somme de toutes les guerres étrangères des États-Unis depuis l'indépendance.
C'est oui, et c'est les batailles les plus sanglantes.
Effroyables.
Et cette peur des Américains, qu'on ait, par exemple, moi, elle se concentre sur un fait. Il n'y a jamais eu un film biographique, une vraie, de Robert E. Lee.
Non.
Qui est pourtant un des personnages les plus passionnants.
Absolument.
De cette époque. Homme qui est opposé à l'esclavage, qui serait, c'est à lui que Lincoln veut confier le commandement des armées, qui passe une nuit, ce serait la nuit qu'il a passée d'hésitation, elle serait intéressante à dramatiser, là, qui va préférer l'État de Virginie à l'État avec un grand E, qui va être un général extraordinaire, qui après la défaite de Gettysburg va chevaucher devant ses troupes pour s'excuser de s'être trompé, de les avoir envoyés, et qui va, quand il va, après s'être rendu, qui ne va plus jamais vouloir participer à aucune cérémonie de la guerre de sécession, et qui dira, je pense que le moment où j'ai choisi la carrière militaire est une des plus grandes erreurs de ma vie. Et donc ce personnage, c'est quelque chose de très très
fait.
Bouleversant. Et
fait.
On s'étonne qu'il y ait même peu de livres sur lui, que toutes ces contradictions, comme si l'Amérique avait peur d'affronter ça.
Non, mais parce qu'il fait partie du camp des vaincus, parce que c'était le chef des rebelles, au fond.
Oui, oui.
Mais vous avez raison, c'était un drame personnel considérable. Il était hostile à l'esclavage et il était hostile à la sécession.
Oui.
Et il
oui.
a fini par expliquer qu'il se ralliait à la Confédération simplement par fidélité envers son État de Virginie.
Oui.
Ce qui, d'ailleurs, est une remarque tocquevillienne. Elle est très intéressante dans la réflexion sur le fédéralisme américain, qu'on puisse placer la fidélité à son origine, à son État, avant une grande cause politique. Mais alors, je m'éloigne, je passe du particulier au général. Bertrand Tavernier, j'ai envie de vous poser une question très générale sur le thème des films biographiques. Qu'est-ce que vous pensez du film biographique, de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon,
le biopic.
Dans la novlangue, le biopic, comme genre cinématographique? Est-ce que vous en connaissez beaucoup de chefs-d'œuvre? Est-ce que vous approuvez ce genre?
C'est un genre très piégé, qui est très piégé parce que, d'abord, il est tributaire souvent des censures de l'époque de son tournage. Il y a des biographies de compositeurs, par exemple, qu'elles soient d'ailleurs russes ou américaines, qui n'osent pas jamais avouer l'homosexualité des héros. Il y a beaucoup, beaucoup de biages. Il y a... C'est un genre qui peut être dangereux. Il y a quelques réussites. Alors évidemment, c'est au moment où. Mais il y a eu quelques réussites. On peut pas ranger d'ailleurs le Spielberg dans cette catégorie.
Non, pas
parce
du
que
tout.
Mais c'est vrai, c'est ce qui piège un peu le film de Griffiths. C'est cette espèce d'ambition de vouloir tout raconter.
Oui.
De vouloir tout raconter.
Oui, et puis de contribuer à l'édification d'un monument.
Oui,
en l'occurrence.
Même si. Il y a dans le film de Griffiths, il y a plus de choses intéressantes qu'on a bien voulu le dire, notamment une manière de s'inspirer des photos de Matthew Brady pour filmer un camp militaire ou la campagne, ou des choses comme ça, qui sont assez intéressantes. Et puis ce prologue, qui a été découvert très récemment, qui montre l'horreur d'un vaisseau négrier, comme si Griffiths voulait un peu s'excuser de Naissance d'une nation, qui était, sur le plan idéologique, un film terrible, 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 terrible.
Marc-Olivier Padis.
Oui, comme vous avez dit, les difficultés du genre cinématographique de la biographie, on voit l'intérêt de films qui sont concentrés juste sur un épisode, oui. Notamment Young Mr. Lincoln vers sa destinée, où c'est un épisode, dans le fond, c'est le genre cinématographique du procès, où l'éloquence de Lincoln peut se déployer, et ça permet de surmonter beaucoup des difficultés, des risques du parcours de la naissance à la mort, avec énormément de raccourcis, de choses très longues. La question que je voulais vous poser, justement, c'est un peu sur le genre cinématographique. Vous avez dit aucun film n'entre dans le fond du débat sur la guerre de sécession, le fond du débat étant cette querelle constitutionnelle sur qu'est-ce qui fait l'unité des États-Unis, à savoir est-ce que les États ont le droit de décider s'ils veulent maintenir l'esclavage, institution particulière, comme on disait, ou s'ils veulent l'abolir. Et le dilemme moral de Lincoln, c'est il veut à la fois sauver l'unité du pays et en même temps lutter contre l'esclavagisme. Et les deux sont incompatibles. Il y a un conflit moral et il doit naviguer entre les deux. Alors, cette difficulté à filmer les choix politiques, ce type de choix politiques, est-ce que c'est un problème de genre cinématographique, c'est-à-dire le risque du pompeux, du verbeux, ou est-ce que c'est lié aussi au fait que, du coup, Lincoln a été quand même une figure très controversée? De fait, dès qu'il est élu, il y a sécession, c'est le début de la guerre, et il est resté une figure controversée. Après tout, il a été tué dans un théâtre, d'ailleurs, d'une balle dans la nuque. Donc, c'est un personnage qui n'est devenu consensuel aux États-Unis que au début du XXe siècle. Donc,
la sécession n'est pas de son fait, c'est les sudistes qui attaquent.
Bien sûr.
C'est les sudistes.
Son élection qui a précipité la sécession.
Oui, oui. Je crois que, en plus, c'est un cas spécial parce que les questions qui sont développées sont très ardues. La preuve, c'est que les gens s'affrontaient dans des débats où chacun parlait deux heures pour arriver à donner tous les arguments, et c'est très compliqué. C'est vrai qu'aucun film ne retrace les joutes entre Stephen Douglas et mais c'est aussi peut-être très difficile. C'est pas une impuissance du cinéma, c'est même... Il y aurait la même chose au théâtre, il y aurait... peut-être si, le temps, une série. Et je pense qu'il y a eu certaines séries. Il paraît qu'il y en a même eu une qui était réalisée par l'acteur qui avait été mis sur la liste noire, Norman Lloyd, et écrit par James Agee, qui, paraît-il, était extrêmement intéressante. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas une matière qui est cinématographique, et c'est aussi la peur un peu de tous les cinémas, d'affronter réellement le passé au risque de casser des croyances, de piétiner des tabous. Il y avait une forme de timidité pendant longtemps que des grands metteurs en scène arrivaient à contourner. Ils arrivaient à prendre, à s'emparer d'un sujet, et aussi bien Ford que John Cromwell arrivent à parler finalement de Lincoln de manière extrêmement satisfaisante, et que aussi beaucoup de films évoquent les conséquences, c'est vrai, mais on le trouve dans le cinéma soviétique. Est-ce qu'il y a un film qui rend véritablement compte de la Révolution d'octobre? Et il y a eu de ça, beaucoup de raisons. Il y a des tabous politiques, des tabous idéologiques. C'est le film d'Eisenstein, il est plein d'erreurs et de...
C'est pire que Griffiths, quand même.
Oui. C'est là-dessus. Je voudrais juste raconter un truc. Quand la première fois que je suis venu aux États-Unis, j'avais voulu interviewer un metteur en scène très, très âgé, Alan Dwan, qui avait commencé avec le cinéma muet, où il a tourné plusieurs chefs-d'œuvre, hein, avec Douglas Fairbanks, hein, et je parlais de ça avec Douane, et Douane me disait, écoutez, moi, Lincoln, je le vois dans beaucoup de films américains à travers Gary Cooper. Je trouve qu'il y a quelque chose de lincolnien dans son image et dans ce qu'il projette. Et ça, je trouve que c'est une notion intéressante où on peut parler de Lincoln sans l'évoquer. Je trouve que ça donne une piste intéressante. Pour certains metteurs en
scène. Le train sifflera trois fois, c'est tout à fait ça, hein, oui, c'est absolument.
Ah, il y a la, oui, y a la taille, il y a le côté longiligne, il y a le mètre 96.
Il y a aussi l'origine provinciale. Le fait qu'il n'est pas de la côte est.
Et la lenteur.
Et la lenteur, oui. Tout ça. Mais je pense aussi que comme vous l'avez dit, que la guerre de sécession est tellement complexe et que les gens, je crois, en ont une conception tellement limitée que ça demande plus de 12 heures à Ken Burns pour arriver à en rendre compte, ce qui est quand même un piège que beaucoup, même de grands scénaristes, avaient du mal à résoudre.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, quand on regarde la personnalité de Lincoln, on s'aperçoit que c'est une personnalité extraordinairement complexe et qui a été héroïque à certains égards, mais qui est aussi le contraire de l'héroïsme. C'est un personnage profondément mélancolique, ça c'est assez romantique, et qui a, comme dirait Churchill, de bonnes raisons de l'être, parce que c'est une vie quand même dramatique entre la mort de sa mère très précocement, le drame que décrit Ford, notamment de la perte de sa fiancée à 25 ans, la mort de son fils à la fin, tout ça jalonne. Et on voit bien que cet homme est profondément mélancolique et qu'une fois plus, on voit bien que l'humour est comme toujours, comme chez Churchill, comme chez d'autres, et la politesse du désespoir, comme on dit, mais est une sorte d'arme contre ça. Donc on a ce personnage qui est assez qui est assez tout en retenue, et moi j'ai toujours pensé que la politique était l'activité la plus adaptée au tempérament mélancolique, parce que il y a des grands temps morts, puis il y a les temps électoraux, et ça correspond parfaitement aux phases de cyclothymie de l'homme. Deuxièmement, ce qui est frappant, et ça Spielberg le montre alors vraiment superbement, c'est quand même le caractère vraiment politicien. Alors moi, je trouve ça très bien, parce que j'aime beaucoup que les hommes politiques fassent des compromis, négocient, essaient d'obtenir des choses. C'est comme ça qu'on ne se massacre pas, c'est comme ça qu'on se comprend, c'est comme ça que ça avance.
Mais John Ford le montre aussi. Oui, quand absolument. Fonda triche dans cette compétition de tir à la corde, Lincoln triche, on voit
vous avez tout à fait raison.
Il se prépare à être politicien.
Mais Ford prend quand même un biais, il prend la jeunesse, il prend le moment non héroïque. Tandis que là, avec Spielberg, on est au cœur de la guerre de sécession, on est au cœur du vote de l'amendement décisif, etc. Et donc, on voit bien, et même, c'est carrément de la corruption. Enfin, il dit qu'est-ce qu'il veut, celui-là, on lui donne ça, on lui donne ci, on lui donne ça. Donc, ça, c'est peut-être un peu moins bien. Et puis, il y a cette dimension qui est quand même très importante et très peu manichéenne, c'est la modération, parce que vous l'avez rappelé, c'est quelqu'un qui n'est pas a priori partisan de l'abolition par voie autoritaire.
Il est contre l'esclavage,
mais il est pour que les États gardent quand même une certaine liberté. Enfin, il n'est pas pour imposer au Sud. Il essaie de trouver un équilibre fédéral. C'est peu à peu porté par les choses, et on voit bien au début du film de Spielberg la conversation on ne le voit pas d'abord, mais on a les deux noirs qui parlent. On voit bien à quel point il y a tout un océan de prévention à surmonter pour les admettre dans le combat. Donc tout ça est ce que je trouve formidable chez Spielberg, c'est que justement cette espèce de grand cinéaste qui fait des grands effets, des grands machins, il ressaisit tout à fait cette nuance. Et je trouve, et je voudrais avoir votre avis là-dessus aussi, je trouve que le second grand film quand même populaire sur la guerre de sécession, c'est quand même Autant d'emporte le vent. Je suis pas sûr que vous aimiez Autant d'emporte le vent.
Non, j'aime pas beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup Autant d'emporte le vent, et j'aime beaucoup à cause de ça. J'aime beaucoup parce que Scarlett est une anti-héroïne, et que malgré tout, le Sud apparaît dans sa complexité profonde, ça n'est pas quelqu'un de sympathique, les deux héros ne sont pas très sympathiques, elle se comporte après la reconstruction, enfin dans la phase post-guerre, d'une façon extrêmement déplaisante, notamment sur le plan social, et je trouve qu'il est assez étonnant d'avoir à la fois bâti une épopée sur le Sud, sur la propriété, et en même temps d'avoir refusé très profondément le manichéisme. Et je crois que il y a quand même en commun entre ces deux films le refus du manichéisme.
Le manichéisme sur les Noirs est quand même assez pénible à voir. La façon dont ils jouent, dont ils sont montrés, même par rapport à d'autres films de l'époque, le traitement là-dessus des Noirs, la façon dont ils roulent des yeux, ils sont tous...
Je ne dis pas qu'il n'y ait pas...
C'est terrible, il y a une vision... totalement pro-sudiste là-dessus, qui se traduit par ça. Il faut dire, à la décharge du metteur en scène de Victor Fleming, que la plupart des scènes, notamment avec les domestiques, avec la cuisinière, qui je crois gagnait un Oscar, d'ailleurs pour ça, sont filmées par Sam Wood. C'est pas Fleming qui les fait, et Sam Wood était un metteur en scène qui était devenu... un ennemi juré de Roosevelt et un des partisans, un des metteurs en scène, c'est au-delà du conservateur, les plus réactionnaires et donc qui devait pas être un fervent partisan de l'antiracisme. Mais il y a d'autres films aussi qui sont intéressants, comme ça, qui traitent un peu, qui sont un peu des reprises de ça. Il y avait L'Esclave Libre de Raoul Walsh, il y avait tout ça. Mais c'est vrai que de toutes les manières que dans Autant n'emporte le vent, il y a le personnage que joue Gable est un personnage extrêmement plus complexe qu'on pourrait...
Mais Scarlett elle-même, vous avez raison sur le film des Noirs, je ne savais pas que c'était pas le même, mais le personnage de Scarlett est un anti-héros, on voit vraiment toute la complexité de ce personnage qui est quand même très antipathique sur tous les plans, sur le plan personnel, privé, sur le plan c'est moi et rien d'autre, c'est comme ça qu'elle s'en tire, et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir fait une sorte d'anti-épopée de ce point de vue-là.
Oui, moi, ce qui me touche pas dans le film, c'est le côté chromo, le grand truc du producteur, de David O. Selznick, dont Michael Powell disait, il voulait être grand et il n'était que gros.
J'ai de l'indulgence pour les gros.
Marc-Olivier Padis.
Et parmi les questions lancées par Philippe au début de l'émission, il y a cette question que je voudrais reprendre et vous poser sur le rapport la figure de Lincoln au cinéma raconte du rapport des Américains à leur histoire. Oui. Je disais tout à l'heure que Lincoln a été longtemps une figure controversée, tout le conflit entre le Nord et le Sud, et progressivement, il est devenu une figure beaucoup plus consensuelle, et le cinéma a probablement joué un rôle dans cette transformation.
Énorme.
Est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus et sur cette capacité du cinéma américain à fabriquer du récit collectif qui a une portée politique, finalement?
Je pense que Lincoln a été un président qui a été haï à un moment, de manière qui ne repose sur rien. Les déclarations les quelques citations qu'on peut lire de John Wilkes montrent qu'il ne regarde même pas ce qu'il pourrait prendre dans les textes de Lincoln.
Boots, l'assassin de Lincoln.
Oui. Et par exemple, je vois guère que Obama, qui est suscité d'une telle haine, chez certaines personnes, et une telle haine, parfois irrationnelle.
C'est peut-être un lien.
Hein? Mais c'est intéressant.
Obama était noir.
Oui. C'est intéressant.
C'est un détail.
C'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on le dit, oui.
Mais on exagère toujours.
Pas que ce soit un détail de l'histoire.
Oui. Il se trouve que cette haine de l'époque, petit à petit, en effet, un peu par le cinéma, parce que même les gens opposés à Lincoln ont essayé de le respecter dans les films. Même Griffiths, qui était, dont on voit qu'il était, mais pro-sudiste à un point qui paraît délirant, de le peu qu'on voit Lincoln, il n'est pas caricaturé. Alors pour Ford, c'est différent. Ford, il voyait toujours Lincoln comme l'homme qui pouvait rapprocher, l'homme de la réconciliation. Et pour Ford, c'était un thème extrêmement important. Les gens qui unissent.
Le divide and house.
L'une des premières fois où on voit, par exemple, Lincoln dans « Je n'ai pas tué Lincoln », là, le Prisoner of Shark Island, Lincoln qui arrive au balcon, se fait applaudir par la foule et dit « Est-ce qu'on peut jouer Dixie ?» et dans un désir. Et pour Ford, c'était important.
Donc, l'hymne
cette réconciliation. Mais petit à petit, Ford a été pris par des cinéastes aussi bien conservateurs que progressistes. C'est auprès de lui que Vasse, à un moment, prendre de manière conseil, en tant que près de sa statue, James Stewart dans Monsieur Smith au Sénat.
Oui.
Il vient là. Alors, il est vrai que Monsieur Smith au Sénat a une forme de dichotomie. Capra, qui était sans doute quelqu'un de conservateur, et qui travaillait sur un scénario écrit par un scénariste communiste. Et que tout ça donne... Il y a l'image de Lincoln est présente. Elle est présente dans plusieurs films comme ça, où Lincoln apparaît quand on fait référence à lui comme quelqu'un qui pourrait résoudre la situation, auquel moralement on doit se référer. Je pense que ça, le cinéma en effet a contribué à vraiment montrer ça. Il y a peu de films qui le décrivent de manière extraordinairement critique et haineuse.
François Bujon de l'Étang.
Non, dans l'ensemble, je trouve même que les films, enfin tous ceux que j'ai pu voir, donnent de lui une image probablement, si on les rapproche, assez exacte dans toute sa complexité, parce qu'on montre à la fois ce personnage abrupt, dégingandé, un peu encombré de lui-même, son 1m96 surmonté par cette interminable haute forme, mais on montre l'avocat généreux, très bien, John Ford le montre magnifiquement bien, et plus tard Spielberg, alors qui est le plus politique des trois films, finalement, enfin de ces grands films, le montre sous son jour le plus politique. C'est Spielberg qui va le plus au fond du processus politique américain et de la façon dont le président doit négocier avec chacun des protagonistes du Congrès son ralliement à un vote dont l'urgence est énorme. Parce que le film de Spielberg fait ressortir une chose qu'on oublie toujours, c'est que au moment de sa réélection, Lincoln se trouvait avec un travail inachevé. Son amendement, l'acte d'abolition, avait été voté par la Chambre des représentants, mais pas par le Sénat. Et comme il perdait la majorité au Sénat avec l'élection, il lui fallait d'urgence, dans les quelques semaines qui restaient, faire voter l'acte par le lame duck Senate, comme on dit, c'est-à-dire le Sénat finissant. Et le processus politique tel que le montre Spielberg est, je trouve, extrêmement bien analysé. Mais pour revenir, Lincoln, je crois, c'est à cause de la guerre de sécession, probablement de ce drame national, cette tragédie profonde américaine, que Lincoln reste le personnage le plus controversé, le plus intéressant, car après tout, biopic ou pas biopic, on aurait pu faire des biographies de George Washington, ou de Thomas Jefferson, ou même de Roosevelt, qui quand même était le personnage de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est Lincoln qui retient l'attention des Américains. Et si vous regardez à Washington le Mall, cette grande avenue où sont commémorés les grands épisodes de l'histoire américaine, c'est, encore une fois, le Lincoln Memorial qui retient le plus l'attention, cette statue de marbre qui regarde le visiteur, le discours de Gettysburg inscrit sur les murs, c'est quelque chose de profondément emblématique. Et je ne sais pas si d'autres présidents ou d'autres épisodes de l'histoire américaine interpellent autant l'Américain que Lincoln.
John Adams a fait l'objet d'un feuilleton, d'une série qui a d'ailleurs été aussi diffusée en France.
Absolument.
Et qui manque pas d'intérêt
le rôle de Quincy Adams dans l'affaire de la mutinerie.
Fils est mais présent dans le film.
Film sur John Adams, très intéressant.
Mais le Washington, vous soulevez un point qui est intéressant. Il y a pratiquement rien sur Washington.
Non.
Il y a des cinéastes qui ont essayé. Frank Capra et John Ford. Quand on travaillait avec John Ford, lui, il était en train d'essayer de monter un film sur la bataille de Lexington et de Concorde. Ouais. Et c'est parce que c'était considéré comme box office poison. La création, l'histoire de Washington, la guerre d'indépendance était considérée. On disait qu'il n'y a aucun film qui a jamais marché. D'ailleurs. Griffith s'y a essayé dans un film épique muet qui s'appelle America, au titre très révélateur, et ça a été un énorme échec.
Et pourquoi ?
Comment il faudrait regarder comment le film est sorti, à quelle époque, je ne sais pas. Mais on considérait que le public ne voulait pas voir. Il y avait des gens qui disaient on veut pas voir des gens avec avec un bonnet en queue de castor. Ça repousse le public. Mais
pourtant, on a eu David Croquet dans Alamo.
Oui, on a même eu dans la nouvelle version d'Alamo qui est très sous-estimée. La nouvelle version avec Jason Patric avec d'autres acteurs, on a David Croquet qui ne porte pas la fameuse langue, oui. Et qui explique, quand on lui dit « mais vous ne l'avez pas », il dit « mais je ne la portais qu'en moment... »
Quand il faisait froid.
Non, que quand, en période électorale. Sinon, je ne la mets jamais. Je ne la mets jamais. C'est une... Et c'est une réflexion qui m'a... moi, James Liebert m'avait dit que ce film-là, cette nouvelle version, était complètement juste, et elle montrait, par exemple, que... le personnage que jouait Jim Bowie, que jouait oui. Richard Widmark, était un trafiquant d'esclaves, ce qui était vrai. C'était, et qu'en fait, la bataille pour Alamo, c'était une bataille que des gens voulaient mener pour préserver le droit à l'esclavage, que les Mexicains auraient aboli.
Santa Ana, héros des droits de l'homme.
Mais, oui. Et pourtant, Santa oui. Ana était un tyran, un type qui a détruit sanguinaire. Des villages très sanguinaires, et qui, à la fin de sa vie, a inventé le chiclette. Ah oui. Et qui a fait une fortune avec ça. C'est quand même un truc.
Il est très valorisé dans le premier film d'Alamo. Là, on oui. voit, il rend hommage. C'est lui
c'est
qui rend hommage.
C'est le côté Wayne, de côté de l'attitude de. On respecte l'ennemi oui. noble. Et c'est une vision qui est complètement fausse. Mais cette période, donc, elle est peu abordée et elle est considérée. Même le film de Wayne n'a pas été un triomphe à ouais. l'époque. Il y a une réticence. Alors autant la période après, est-ce que c'est tout ce qui est western, ça a super bien marché, autant tout ce qui touche à la guerre d'indépendance, voire au début de la guerre de sécession, était considéré par Hollywood comme quelque chose qu'il fallait toucher avec des pincettes. Les gens n'y allaient pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, j'ai une question tout à fait ouverte, j'ai pas du tout la réponse, est-ce qu'il n'y avait pas quand même un problème sur l'esclavagisme? Parce que tous ces présidents virginiens, et là ça expliquait Jefferson en particulier, sont quand même des gens qui sont vraiment profondément, philosophiquement anti pour l'égalité des hommes, mais pratiquement... très esclavagiste, il a eu beaucoup d'esclaves, il avait sa maîtresse
Sally
noire,
Hemings.
Etc. Enfin, tout ça et ça compose, ça rend quand même très difficile d'intégrer ça à une épopée américaine de la liberté.
C'est certain que toute cette partie sur les noirs a rendu les choses très difficiles. Oui. Ça a rendu les choses périlleuses, difficiles. C'est absolument indéniable.
Le film Jefferson à Paris, d'ailleurs, vous vous en oui. souvenez, montre bien cette ambiguïté de Jefferson avec, en insistant beaucoup sur sa liaison avec Sally Hemings. Jefferson est un des personnages les plus ambigus puisque oui. c'est vraiment l'homme des Lumières, oui. l'homme du 18e et en même temps un homme qui approuvait l'esclavage, qui le pratiquait chez lui avec douceur, dit-on, mais qui n'a jamais songé à émanciper ses esclaves, même lorsqu'elles étaient sa maîtresse.
Esclavagisme à visage humain.
Oui, Marc-Olivier, tout à l'heure, vous demandiez comment filmer les biopics. Et que c'est en effet quelque chose qui est difficile si on veut éviter les clichés. Et d'une certaine manière, moi je trouve qu'il y a, dans le film de Ken Burns, une scène extraordinaire, et moi qui me bouleverse à chaque fois que je la vois, qui pointe cette difficulté et qui la résout. C'est le passage que Burns consacre à l'adresse de Gettysburg, en se basant sur des photos de l'époque. Ce qu'il voit, ce qu'il a comme document, c'est l'orateur qui précède Lincoln, je crois qu'il s'appelait Edward Everett, qui parle 2 heures, qui fait un discours de 2 heures, qui est pris en photo, et quand il quitte la tribune, le photographe va se préparer à prendre Lincoln, qui arrive de manière qui n'avait pas été vraiment annoncée.
Hein.
Et il se prépare et il pense qu'il va avoir affaire à un discours comme le font tous, c'est-à-dire un discours de 2 heures. Et le discours est tellement court qu'il n'a pas le temps de prendre la photo de Lincoln parlant. Il a juste le temps de le prendre quittant la tribune au milieu. Et entre les deux photos, entre cet intervalle de deux photos, l'orateur précédent et Lincoln se situe le plus grand discours peut-être de la politique américaine et d'arriver à dramatiser cet intervalle qu'on ne voit pas est quelque chose qui est bouleversant et là qui est très cinématographique. C'est tout d'un coup de montrer l'absence, cette absence, ce vide, et dans ce vide, il y a quelque chose d'immense.
François Bujon de l'Étang.
Oui, j'ai une toute petite question incidente à poser à Bertrand Tavernier. Pensez-vous que le fait que Lincoln ait été contemporain de l'invention de la photographie ait joué un rôle dans sa fortune cinématographique ?
Je crois, parce qu'il y a des portraits sublimes, sublimes, et la guerre de sécession a donné lieu à une iconographie, mais somptueuse, somptueuse. On parle de Matthew Brady, mais il a eu d'autres disciples, de gens qui ont photographié ça, et alors c'était déjà... Lincoln était déjà photogénique.
C'est un rêve de photographe.
Il était très photogénique. Un visage sculptural.
Oui, c'est sûr. Mais je pense que le développement, a joué un rôle, et que, quelque part, Lincoln a su l'utiliser.
Mm-hmm. Marc-Olivier Palisse.
À propos de la photogénie, il y a une anecdote parce que Lincoln faisait donc des controverses publiques, des très longs discours avec ses adversaires politiques. Et un jour, un adversaire lui reproche d'avoir un double discours et lui dit « Mais cet homme est hypocrite, il a deux visages ». Et Lincoln lui répond « Mais si j'avais un deuxième visage, croyez-vous que je vous présenterais celui-là, celui que j'ai aujourd'hui ?» Mais la question que je voulais vous poser par rapport à la présentation des autres hommes politiques, des autres présidents américains, il y a une autre singularité, c'est que la plupart des présidents américains étaient des patriciens, des grands propriétaires, c'est pour ça qu'ils possédaient des esclaves. Lincoln est un homme du peuple. Et ça joue un rôle quand même très important dans le cinéma américain.
C'est le rêve américain. Il naît dans la cabane en rondin.
Oui, c'est ça.
Là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que il incarne le rêve américain et en même temps, il l'a combattu d'une certaine manière. Il y a cette dualité qui donne un côté extraordinairement dramatique au personnage.
Pourquoi est-ce qu'il a combattu le rêve
américain? L'émancipation, l'esclavage faisait aussi partie du rêve américain.
Le rêve sudiste, oui.
Le rêve d'une grande partie des États-Unis.
La Virginie, c'est ça qui fait les États-Unis quand même. Hein.
Oui, oui. Oui.
Et c'est le berceau.
Oui. Oui. Et il combat un des points les plus importants sur lequel se fondait la vie américaine de l'époque. Il n'entérine pas le rêve américain dans sa totalité.
Et il affronte cette autre partie du rêve américain qui est que chaque État est absolument maître chez lui. Là, dire le 13e amendement, c'est aussi le fait que chaque État n'est pas...
Oui, et puis encore une fois, au début de cette affaire, le but de Lincoln n'était pas d'obtenir l'abolition de l'esclavage, ça n'est venu qu'en cours de route, si j'ose dire, pendant la guerre civile, c'était d'empêcher que les nouveaux États qui venaient rejoindre l'Union se voient imposer tel ou tel système. Il voulait que les nouveaux États soient des États sans esclavage, des États libres, et non pas des États esclavagistes. Et c'est avec les affaires du Kansas et du Kentucky qu'est venue la guerre de sécession, finalement.
Ce qui avait été décidé pratiquement par le compromis de Missouri, qui avait été remis en cause.
C'est ça, le compromis de Missouri par Stephen Douglas.
Je voulais revenir sur Lee. Je pense que ce qui est un tout petit peu troublant dans toute cette filmographie sur Lincoln, pas toute, justement, mais notamment c'est effectivement la focalisation sur le problème de l'esclavage, qui est évidemment central et qui rétrospectivement reconstitue tout ce qui compte pour nous. Mais le problème central, c'était effectivement la fédération, l'union. Oui. Et là, Lee, quand vous décriviez tout à l'heure l'hésitation de Lee avant de savoir s'il serait fidèle à la Virginie ou fidèle aux États-Unis d'Amérique, il est exactement dans une histoire très précise qui est au bout du compte l'histoire de l'opposition entre Hamilton et Jefferson. Jefferson, il défendait les États. Hamilton défendait la Fédération. Alors que la Fédération américaine, pour des gens comme Jefferson, c'est simplement c'est un peu comme l'Union européenne pour nous. C'est un arrangement qui marche mieux, heureusement. C'est un arrangement pour permettre aux, aux États de vivre plus efficacement, une synergie en quelque sorte. C'est pas une loyauté. Et on retrouve ça tout au long, quand même, toute la querelle de Kaloun là sur la nullification. Mmh. C'est exactement des querelles européennes d'ailleurs. Kaloun propose la nullification, c'est-à-dire le droit pour les États de considérer comme nulle une loi fédérale. C'est exactement comme ceux qui refusent la primauté du droit communautaire aujourd'hui dans l'Union européenne. Tout ça est très très est très présent.
On hésite à dire que c'est une controverse sur la subsidiarité.
Oui, absolument. Et tout ça, c'est ça qui domine. Et d'ailleurs, Lincoln est assez modéré sur ce plan-là. Et c'est peu à peu ça. Il y a un basculement de ce problème-là vers le problème de l'esclavage et qui n'apparaît pas. La grande question pour Lincoln, c'est d'abord comment sauver l'Union. Et c'est effectivement le même dilemme, au bout du compte, que l'île, donc il partageait à peu près les mêmes valeurs sur l'esclavage, sur tout ça. Mais l'un choisit la Virginie, l'autre les États-Unis.
François Bujon de l'État.
Je suis content que Bertrand Tavernier ait évoqué la figure du général Lee, parce que c'est un gentleman, et d'ailleurs les portraits de lui sont toujours très flatteurs. Il y a quand même pas mal de livres aux États-Unis qui ont été écrits sur le général Lee, qui est très respecté, bien que je... Mais ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est la façon dont les figures des militaires qui ont été choisis par Lincoln pour s'opposer à Lee aient été exactement l'antithèse de Lee. Nous n'avons pas encore parlé du général Grant, qui apparaît justement très bien, notamment dans le film de Griffith. Grant était exactement le contraire. C'était un soldat mal noté par ses supérieurs, alcoolique, violent, et c'est quelqu'un à qui Lincoln a fait confiance. Alors qu'au début, les troupes fédérales ont essuyé revers sur revers avec le général McDowell et ensuite avec McClellan.
McClellan, vous dire qu'il est un personnage assez...
Alors, McClellan est extraordinaire.
Assez trouble.
Personnage, oui, puis qui avait construit cette magnifique armée comme un jouet dont il ne voulait pas se servir, parce que ça aurait pu l'abîmer s'il l'avait engagé.
Et qui traitait de babouin bien intentionné, Lincoln.
C'est ça.
Babouin bien intentionné.
Oui, babouin bien intentionné. Et donc Lincoln, au fond, a retourné le sort des armes quand il s'est adressé à des généraux. Quand il s'est adressé à des généraux qui étaient l'antithèse de Lee, c'est-à-dire Grant, Sheridan et Sherman, bien entendu, semé la dévastation dans le Sud-Ouest. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Comment expliquez-vous qu'à travers tout cela, que Lincoln ait pu faire confiance à quelqu'un comme Grant?
Je crois qu'il avait un vrai instinct.
Oui.
Mais qui était un instinct politique, et puis qu'il était très pragmatique. Il va prendre comme ministre de la guerre quelqu'un qui l'a insulté.
Oui, absolument.
Stanton, qui s'est comporté de manière... mais il sent les qualités et il sent qu'on doit passer... et là, ce serait quelque chose qui bénéficierait à la vie politique française, qui doit passer sur une divergence personnelle s'il sent que la personne a un talent pour tenir un poste. Et Stanton a été un bon...
secrétaire à la défense, oui.
Oui, secrétaire à la défense et tout. Et je pense qu'il arrive même à... Il accepte pendant un temps les insultes de McClellan qui sont inouïes. Je me demande... Si c'est passé la même chose dans l'histoire, que le président qui se rend chez un général n'est pas reçu par lui,
il l'a fait attendre 2 heures,
et il n'est pas descendu. Il a dit qu'il était couché et que il n'avait pas à descendre. Il n'avait pas à descendre. Et que Lincoln dit, je ne dois pas le limoger tout de suite. Je dois pas le, il attend.
Quand on lit le livre de Georgette Elger sur le voyage du général de Gaulle, le premier voyage en Algérie, le voyage de Je vous ai compris, on découvre des choses absolument incroyables. De Gaulle dit, j'arrive avec tel ministre, les militaires disent, on veut pas de cela.
Oui.
Et De Gaulle, évidemment, maintient la présence des ministres, et les militaires, c'est-à-dire Salan et compagnie, laissent les ministres dont ils veulent pas sur le tarmac d'Alger qui passe la journée ailleurs. Donc il y avait quand même un défi, alors que le général revenait, qu'il était auréolé d'une gloire extraordinaire.
Comment ?
Je dis, c'est la doctrine McClellan.
Oui, absolument. Absolument. Et il le conserve quand même à un moment dans le poste. Après, il va lui donner le commandement, je crois, de l'armée du Potomac.
Mais il est quand même ce qui caractérise Lincoln, c'est quand même sa formidable puissance de travail, parce qu'il comprend très vite que les militaires qu'il a en face de lui ne valent pas du tout à valeur rien. Il se met aux affaires militaires, il découvre. C'est un héros de la formation permanente. En quelques mois, il découvre tout et il comprend. Et en fait, le choix de Grant est un choix horrible sur le plan humain. C'est un personnage vraiment qui incarne la brutalité du Nord, comme Sherman d'ailleurs, dans tout ça. Mais en même temps, le choix stratégique est génial. Parce que l'homme qui a cassé le système sudiste en deux, c'était quand même l'offensive vers le Tennessee, etc. Oui. C'était quand même un très très grand choix stratégique.
Et on découvre dans la biographie là, de...
Oui, celle de Bernard Vincent.
De Bernard Vincent, on découvre que Ulysse Grant a été reçu en grande pompe à Pau, où Mary Lincoln a passé pas mal de temps. C'était une découverte que j'ai faite dans cette biographie. Je me demande si François Bayrou sait que sa ville a reçu, avec les honneurs militaires, le général
Grant. On avait déjà Bernadotte.
Oui, mais c'est quand même là, c'est quand même le choix de Pau, là-dedans, où il y avait une des plus grandes sociétés de chasse à cour à cheval, dont on relatait les exploits dans le New York Times. C'est quand même une découverte tout à fait
général
étonnante.
Grant, qui deviendra président des États-Unis quelques années plus tard et qui fera deux mandats pendant la période difficile de la reconstruction.
Oui, tout en étant alcoolique
et en passant, comme disait mon professeur d'histoire en classe terminale, et il était tellement souvent ivre-mort qu'il passait plus souvent son temps sous son bureau que derrière.
C'était l'époque où les professeurs d'histoire apprenaient aux lycéens l'histoire des États-Unis au tempora, au mores.
Le film de Spielberg, me semble-t-il, quand même à cette qualité qu'on a un peu évoquée déjà, mais je dirais pas une forme de réhabilitation de la politique, mais au moins il montre ce qu'est la politique et ce qu'elle ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire ces marchandages dont on parlait tout à l'heure pendant cette période cruciale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a, je crois d'ailleurs dans le film, l'un des personnages dit, c'est quand même un paradoxe que l'homme politique le plus droit que nous ayons est obtenu la décision la plus juste par les moyens les plus infâmes, c'est-à-dire par la corruption, ni plus ni moins. C'est-à-dire, il y a des sénateurs qui ont perdu leur mandat, ils vont donc être à la rue quelques mois plus tard, et on achète leur vote en venant leur proposer à l'un un poste dans les postes précisément,
des prébendes,
de faire des prébendes, absolument. Et ça, la politique, c'est ça. Ça ne peut pas ne pas être ça.
Il y a autre chose.
Ça ne peut pas être que ça, mais ça ne peut pas ne pas être ça. Et je dois dire que, comme dégouline de toutes les antennes, qu'elles soient audiovisuelles ou audiovisuelles, le plus constant flot de mépris pour la politique et pour tout ce qui fait qu'elle ne peut pas ne pas être ce qu'elle est, il me semble que Spielberg fait un joli travail en faisant
ce
qu'il fait.
Oui, il est dans d'une certaine manière, c'est un peu la continuation d'une série de films dont un exemple est Tempête à Washington.
Oui, exactement.
Qui était consacré aussi à ça, que Preminger... là encore, c'est un cinéaste d'origine européenne qui va montrer les vraies coulisses de...
Et là aussi, c'est le Sud. Parce que l'automne est sénateur de Caroline du Nord, si je me souviens bien, et il représente le Sud.
Et il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on découvre avec Lincoln, c'est quand même la force et de ces affrontements politiques. C'était des vrais affrontements politiques. Je pense que les débats entre Lincoln et Stephen Douglas étaient extraordinairement argumentés. C'est le contraire de la politique actuelle, qui est à base de tweets, de trucs comme ça. Donald Trump est un exemple extraordinaire d'anti-Lincoln. Je veux dire, c'est lui, il va faire 23 tweets. Là où Lincoln faisait un discours qui était quelquefois ramassé, quelquefois très très long, mais avec des arguments, les gens ne parlaient que de politique. Et ça, on est frappé par ça.
Un petit mot, parce que nous sommes à la fin de l'émission, sur un autre film qui, lui, vient de sortir, qui est le film sur le pilote américain qui a posé, film de Clint Eastwood. Il me semble que là aussi, il y a quelque chose
de Lincolnien.
Et il y a quelque chose aussi dans la manière de Clint Eastwood de filmer, que c'était tellement facile de faire un film à effets spéciaux en montrant un héros positif, etc. Et là, en fait, le sujet du film de Clint Eastwood, c'est la machine contre les hommes. C'est comment les ordinateurs sont en train de prendre le pouvoir.
Ils sont en train de prendre le pouvoir et ils n'arrivent pas à intégrer des notions comme la solidarité, l'hésitation, l'entraide. Ça ne fait pas partie du programme d'ordinateur, donc ils sont à côté de la plaque. Et je trouve le film d'Eastwood il traite un sujet que je trouve extraordinairement important et de manière extrêmement juste, ce qui montre qu'on peut à la fois soutenir Donald Trump, ce qui est un peu une connerie, et faire un film qui est presque orwellien.
Jean-Louis Bourlange. Oui, je voulais juste dire un mot en complément de ce que vient de dire Philippe sur la négociation politique que mène Lincoln. Ce qui est très frappant, c'est d'abord effectivement l'aspect un peu marchandage, y compris limite, mais c'est également que tout le projet, toute la manœuvre de Lincoln consiste à désarmer le maximalisme. Car il est confronté à quelqu'un qui, au nom de principes fondamentaux, ne veut pas d'un compromis. Or, il sait que c'est le compromis. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point le maximalisme peut être effectivement l'instrument de la régression. Et le courage, le courage d'être, non pas au centre, mais d'être modéré.
François Bujon de l'État.
Non, je voulais ajouter aussi que le film de Spielberg est peut-être aussi celui qui est le plus touchant sur le plan humain, dans la mesure où c'est celui qui montre le plus le caractère dépressif de Lincoln. Lincoln était non seulement, vous dites, mélancolique, ce qui est vrai, mais il avait des crises de dépression. Et non seulement les drames personnels qu'il a eus, la mort de son fils, les problèmes conjugaux, etc., mais les pertes de la guerre de sécession étaient des choses qui le plongeaient dans un état profondément dépressif. Et il me semble que c'est Spielberg qui le montre le mieux, comme s'il voulait équilibrer le côté roué qu'il met en valeur avec les tractations politiques qu'il mène les uns avec les autres. Dans les autres films, notamment celui de Griffith, le caractère, les crises de dépression sont suggérées, elles ne sont pas véritablement montrées.
Elles sont assez importantes dans le Abe Lincoln Sinilis.
Après la mort de Dan Rutledge, notamment, de sa fiancée.
Mais également, ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y a un très grand metteur en scène, par exemple comme Ford, comment il arrive à contourner, pour suggérer des sentiments comme ça, les pièges du biopic par des moyens purement cinématographiques. Il y a un moment, le drame de la disparition d'Anne Rutledge inspire à Ford une sorte de mouvement avant vers le lac et qui se coupe sur l'apparition de la neige. Et l'enchaînement de ces plans et le petit moment où on entend de la musique, qui est une chose forte, que généralement, ça, qui donne quelque chose de cosmique, d'immense, et qui tout d'un coup dépasse complètement le cadre, et qui suggère aussi ces sentiments personnels de Lincoln.
Il faut dire que je crois que si nous nous sommes attachés à ces deux films plus particulièrement, c'est pas seulement à cause des deux formidables réalisateurs, c'est aussi à cause des deux formidables acteurs que sont Henry Fonda et Daniel Day-Lewis, qui dans les deux cas campent un Lincoln d'une formidable densité. J'ajoute que nous nous sommes intéressés et nous avions pris plaisir à lire la biographie que Bernard Vincent a publiée chez l'Archipel. Vous en trouverez les références sur notre site. Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour On ne parle pas la bouche pleine, et la semaine prochaine, à la même heure sur cette même chaîne, si je puis dire, et la semaine prochaine, nous serons en direct et en public. Si vous souhaitez assister à l'émission, il vous suffit de vous inscrire sur www.maisondelaradio.fr. Et vous saurez tout sur ce qui peut être fait. Bonne année encore et à la semaine prochaine.